Voici la suite du troisième livre de la guerre des Gaules, écrit par Jules César. 15. Dès qu'un vaisseau était ainsi privé de ses vergues, deux ou trois des nôtres l'entouraient, et nos soldats, pleins d'ardeur, tentaient l'abordage. Les barbares, ayant par cette manœuvre perdu une partie de leur navire, et ne voyant nulle ressource contre ce genre d'attaque, cherchèrent leur salut dans la fuite. Déjà, ils avaient tourné leur navire de manière à recevoir le vent, lorsque tout à coup eut lieu un calme plat qui leur rendit tout mouvement impossible. Cette heureuse circonstance compléta le succès, car les nôtres les attaquèrent et les prirent l'un après l'autre, et un bien petit nombre put regagner la terre à la faveur de la nuit, après un combat qui avait duré depuis environ la quatrième heure du jour jusqu'au coucher du soleil. Soumission des Vénètes. 16. Cette bataille mit fin à la guerre des Vénètes et de tous les états maritimes de cette côte. Car toute la jeunesse et même tous les hommes d'un âge mûr, distingués par leur caractère ou par leur rang, s'étaient rendus à cette guerre, pour laquelle tout ce qu'ils avaient de vaisseaux, en divers lieux, avait été rassemblé en un seul. La perte qu'ils venaient d'éprouver ne laissait au reste des habitants aucune ressource pour la retraite, aucun moyen de défendre leur ville. Ils se rendirent donc à César avec tout ce qu'ils possédaient. César crut devoir tirer d'eux une vengeance éclatante qui apprit aux barbares à respecter désormais le droit des ambassadeurs. Il fit mettre à mort tout le Sénat et vendit à l'encan le reste des habitants. Victoire de Sabinus sur les Unelles. 17. Tandis que ces événements se passaient chez les Vénètes, Q. Titurius Sabinus arrivait sur les terres des Unelles avec les troupes qu'il avait reçues de César. Viridovix était à la tête de cette nation et avait le commandement en chef de tous les états révoltés, dont il avait tiré une armée et des forces redoutables. Depuis peu de jours, les Olerques, Eburovis et les Lexovii, après avoir égorgé leur Sénat, qui s'opposait à la guerre, avaient fermé leurs portes et s'étaient joints à Viridovix. Enfin, de tous les points de la Gaule était venue une multitude d'hommes perdus et de brigands que l'espoir du pillage et la passion de la guerre avaient arraché à l'agriculture et à leurs travaux journaliers. Sabinus se tenait dans son camp situé sur le terrain le plus favorable, pendant que Viridovix, campé en face de lui à une distance de 2000, déployait tous les jours ses troupes et lui offrait la bataille, de sorte que Sabinus s'attirait non seulement le mépris des ennemis, mais encore les sarcasmes de nos soldats. L'opinion qu'il donna de sa frayeur était telle que déjà l'ennemi osait s'avancer jusqu'au retranchement du camp. Le motif de Sabinus pour agir ainsi était qu'il ne croyait pas qu'un lieutenant dût, surtout en l'absence du général en chef, combattre une si grande multitude, à moins d'avoir pour lui l'avantage du lieu ou quelque autre circonstance favorable. 18. L'opinion de cette frayeur s'étant affermie, Sabinus choisit parmi les Gaulois qu'il avait près de lui comme auxiliaire un homme habile et fin. Il lui persuade, à force de récompenses et de promesses, de passer aux ennemis et l'instruit de ce qu'il doit faire. Dès que cet homme est arrivé parmi eux comme transfuge, il parle de la terreur des Romains, il annonce que César lui-même est enveloppé par les Vénètes, et que, pas plus tard que la nuit suivante, Sabinus doit sortir secrètement de son camp avec son armée et partir au secours de César. Les Gaulois n'ont pas plus tôt entendu ce rapport qu'ils s'écrient tous qu'il ne faut pas perdre une occasion si belle et qu'on doit marcher au camp des Romains. Plusieurs motifs excitaient les Gaulois. L'hésitation de Sabinus pendant les jours précédents, le rapport du transfuge, le manque de vivres, chose à laquelle on avait pourvu avec peu de diligence, l'espérance fondée sur la guerre des Venettes, enfin cette facilité des hommes à croire ce qu'ils désirent. Décidés par tous ces motifs, ils ne laissent point sortir du conseil Viridovix et les autres chefs qu'il n'ait obtenu d'eux de prendre les armes et de marcher contre nous. Joyeux de cette promesse, et comme assurés de la victoire, ils se chargent de sarments et de broussailles pour combler les fossés des Romains et se dirigent vers leur camp. 19. Le camp était sur une hauteur à laquelle on arrivait par une pente douce d'environ 1000 pas. Ils s'y portèrent d'une course rapide, afin de laisser aux Romains le moins de temps possible pour se rassembler et s'armer, et arrivèrent hors d'haleine. Sabinus exhorte les siens et donne le signal désiré. Il ordonne de sortir par 2 portes et de tomber sur l'ennemi embarrassé du fardeau qu'il portait. L'avantage de notre position, l'imprévoyance et la fatigue des ennemis, le courage des soldats, l'expérience acquise dans les précédents combats, firent que les barbares ne soutinrent pas même notre premier choc et qu'ils prirent aussitôt la fuite. Nos soldats, dont les forces étaient entières, les atteignirent dans ce désordre et en tuèrent un grand nombre. La cavalerie acheva de les poursuivre et ne laissa échapper que peu de ces fuyards. C'est ainsi que, dans le même temps, Sabinus apprit l'issue du combat naval et César la victoire de Sabinus. Toutes les villes de cette contrée se rendirent sur le champ à Titurius. Car si le Gaulois est prompt et ardent à prendre les armes, il manque de fermeté et de constance pour supporter les revers. Crassus bat et soumet les Sotiates. 20. Presque à la même époque, P. Crassus était arrivé dans l'Aquitaine, pays qui, à raison de son étendue et de sa population, peut être estimé, comme nous l'avons dit, le tiers de la Gaule. Songeant qu'il aurait à faire la guerre dans les mêmes lieux où, peu d'années auparavant, le lieutenant L. Valerius Preconinus avait été vaincu et tué, et d'où le proconsul Manlius avait été chassé après avoir perdu ses bagages, il crut qu'il ne pouvait déployer trop d'activité. Ayant donc pourvu aux vivres, rassemblé des auxiliaires et de la cavalerie, et fait venir en outre de Toulouse, de Carcassonne et de Narbonne, pays dépendant de la province romaine et voisin de l'Aquitaine, bon nombre d'hommes intrépides qu'il désigna, il mena son armée sur les terres des Sotiates. À la nouvelle de son arrivée, les Sotiates rassemblèrent des troupes considérables et de la cavalerie, qui faisait leur principale force, attaquèrent notre armée dans sa marche et engagèrent avec elle un combat de cavalerie, dans lequel, ayant été repoussés et poursuivis par la nôtre, ils firent tout à coup paraître leur infanterie placée en embuscade dans un vallon. Ils assaillirent nos soldats épars et recommencèrent le combat. 21. Il fut long et opiniâtre. Les Sotiates, fiers de leurs anciennes victoires, regardaient le salut de toute l'Aquitanie comme attaché à leur valeur. Nos soldats voulaient montrer ce qu'ils pouvaient faire en l'absence du général, sans l'aide des autres légions, sous la conduite d'un jeune chef. Couverts de blessures, les ennemis enfin tournèrent le dos. On en tua un grand nombre, et Crassus, sans s'arrêter, mit le siège devant la capitale des Sotiates. Leur résistance courageuse l'obligea d'employer les mantelets et les tours. Tantôt il faisait des sorties, tantôt il pratiquait des mines jusque sous nos tranchées. Une sorte d'ouvrage où ils sont très habiles, leur pays étant plein de mines d'airain qu'ils exploitent. Mais voyant tous leurs efforts échouer devant l'activité de nos soldats, ils députèrent à Crassus pour lui demander de recevoir leur capitulation. Crassus y consentit, à la condition qu'ils livreraient leurs armes, ce qu'ils firent. 22. Tandis que tous les nôtres s'occupaient de l'exécution de ce traité, d'un autre côté de la ville se présenta le général en chef Adiatuanos, avec 600 hommes dévoués, de ceux que ces peuples appellent « soldures ». Telle est la condition de ces hommes, qu'ils jouissent de tous les biens de la vie avec ceux auxquels ils se sont consacrés par un pacte d'amitié. Si leur chef périt de mort violente, ils partagent son sort et se tuent de leurs propres mains. Et il n'est pas encore arrivé, de mémoire d'homme, qu'un de ceux qui s'étaient dévoués à un chef par un pacte semblable ait refusé, celui-ci mort, de mourir aussitôt. C'est avec cette escorte qu'Adiatuanos tenta une sortie. Les cris qui s'élevèrent sur cette partie du rempart firent courir aux armes, et à la suite d'un combat sanglant, Adiatuanos, repoussé dans la ville, obtint cependant de Crassus d'être compris dans la capitulation générale. Les Aquitains se coalisent et font appel aux Espagnols. 23. Après avoir reçu les armes et les otages, Crassus marcha sur les terres des Vocates et des Tarussates. Les barbares, vivement effrayés en apprenant qu'une place également défendue par la nature et par la main de l'homme était, peu de jours après l'arrivée de Crassus, tombée en son pouvoir, s'envoient de toutes parts des députés, se liguent ensemble, se donnent mutuellement des otages, rassemblent des troupes. Ils députent aussi vers les États de l'Espagne citérieure, voisins de l'Aquitaine, pour qu'on leur envoie de là des secours et des chefs. À leur arrivée, pleins de confiance dans leur nombre, ils disposent tout pour la guerre. Ils mettent à leur tête ceux qui avaient longtemps servi sous Q. Sertorius et qui passaient pour très habiles dans l'art militaire. Ils commencent, à l'exemple du peuple romain, par prendre leur position, par fortifier leur camp, par nous intercepter les vivres. Crassus s'en aperçut et, sentant bien que ses troupes étaient trop peu nombreuses pour les diviser, tandis que l'ennemi pouvait faire des courses, occuper les chemins et cependant ne pas dégarnir son camp, ce qui devait rendre difficile l'arrivée des vivres, le nombre des ennemis croissant d'ailleurs de jour en jour, il pensa qu'il fallait se hâter de combattre. Il fit part de cet avis dans un conseil, et le voyant partagé par tout le monde, il fixa le jour suivant pour celui du combat. Victoire de Crassus. Soumission de l'Aquitaine. 24. Au point du jour, il fit sortir toutes les troupes en format deux lignes, plaça au milieu les auxiliaires et attendit ce que feraient les ennemis. Ceux-ci, quoique à raison de leur nombre et de leur ancienne gloire militaire, ils se crussent assurés de vaincre une poignée de Romains, tenaient cependant pour plus sûr encore, étant maîtres des passages et interceptant les vivres, d'obtenir une victoire qui ne leur coûta pas de sang. Si la faim nous forçait à la retraite, ils profiteraient de notre découragement pour nous attaquer au milieu des embarras de notre marche et de nos bagages. Ce dessein fut approuvé de leur chef, et tandis que l'armée romaine était en bataille, ils se tinrent dans leur camp. Ayant pénétré le but de cette inaction, dont l'effet fut d'inspirer à nos soldats d'autant plus d'ardeur à combattre que l'hésitation des ennemis passait pour de la crainte, et cédant au cri général qui s'éleva pour qu'on marchât sans délai contre eux, Crassus harangue ses troupes et, selon leurs vœux, ils marchent contre le camp. 25. Là, tandis que les uns comblent le fossé, que les autres, en lançant une grêle de traits, chassent du rempart ceux qui le défendent, les auxiliaires, sur qui Crassus comptait peu pour le combat, employés soit à passer les pierres et les traits, soit à apporter les fascines, pouvaient cependant figurer comme combattants. De son côté, l'ennemi déployait un courage persévérant, et ses traits, lancés d'en haut, ne se perdaient point. Sur ces entrefaites, des cavaliers qui venaient de faire le tour du camp rapportèrent à Crassus qu'il était faiblement fortifié du côté de la porte d'Écumane et qu'il offrait sur ce point un accès facile. 26. Crassus recommande au préfet de la cavalerie d'encourager leurs soldats par la promesse de grandes récompenses et leur explique ses intentions. Ceux-ci, d'après l'ordre qu'ils ont reçu, prennent avec eux 4 cohortes toutes fraîches, restées à la garde du camp, et, leur faisant faire un long détour pour dérober leur marche aux yeux de l'ennemi, occupé tout entier à combattre, ils arrivent promptement à cette partie du retranchement dont nous parlions, en force l'entrée et pénètrent dans le camp des ennemis avant que ceux-ci aient pu les apercevoir ou apprendre ce qui se passe. Avertis par les cris qui se font entendre de ce côté, les nôtres sentent renaître leur force, comme il arrive d'ordinaire quand on a l'espoir de vaincre, et ils pressent l'attaque avec plus de vigueur. Les ennemis, enveloppés de toutes parts, perdent courage, se précipitent du haut de leurs remparts et cherchent leur salut dans la fuite. La cavalerie les atteignit en rase campagne, de 50 000 hommes fournis par l'Aquitaine et le pays des Cantabres. Elle laissa à peine échapper le quart et ne rentra au camp que bien avant dans la nuit. 27. Au bruit de cette victoire, la plus grande partie de l'Aquitanie se rendit à Crassus et envoya d'elle-même des otages. De ce nombre furent les Tarbelles, les Biguerions, les Ptianii, les Vocates, les Tarussates, les Elussates, les Gattes, les Osques, les Garuni, les Sibusates et les Cocosates. Quelques États éloignés, se fiant sur la saison avancée, négligèrent d'en faire autant. Campagne contre les Ménapes et les Morins. 28. Presque dans le même temps, bien que l'été fût déjà près de sa fin, César, voyant toute la Gaule pacifiée, à l'exception des Morins et des Ménapes qui restaient en armes, et ne lui avait jamais envoyé de député pour demander la paix, fit marcher son armée contre eux, espérant que cette guerre serait bientôt terminée. Ses peuples arrêtèrent, pour la soutenir, un plan tout autre que le reste des Gaulois. Car, voyant tant de grandes nations repoussées et vaincues en livrant des batailles, ils se retirèrent avec tous leurs biens dans les bois et les marais dont leur pays était couvert. César, arrivé à l'entrée de ces forêts, commençait à y retrancher son camp, sans qu'un seul ennemi se fût montré, lorsque tout à coup, et pendant que nos soldats étaient çà et là occupés aux travaux, ils accourent de tous les côtés de la forêt et fondent sur nous. Les Romains saisissent promptement leurs armes, les repoussent dans le bois et en tuent un grand nombre, mais, les ayant poursuivis trop loin dans des lieux couverts, ils essuyèrent eux-mêmes quelques pertes. 29. Les jours suivants, César fit travailler à abattre la forêt, et pour empêcher qu'on ne prît en flanc et par surprise les soldats désarmés, il fit entasser en face de l'ennemi tout le bois que l'on coupait pour s'en faire un rempart de chaque côté. Ce travail avait été, en peu de jours et avec une incroyable vitesse, exécuté sur un grand espace de terrain. Nous étions déjà maîtres du bétail et des derniers rangs des bagages de l'ennemi qui s'enfonçaient dans l'épaisseur des forêts lorsque le temps fut tel qu'il força d'interrompre les travaux. Il ne fut plus même possible, à cause de la continuité des pluies, de tenir le soldat sous les tentes. Après avoir ravagé tout le pays et brûlé les bourgs et les habitations, César ramena l'armée et la mit en quartier d'hiver chez les Aulerques, les Lexovii et les autres peuples qui s'étaient récemment soulevés. Fin du livre 3.